Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, au moment où Julian Assange vient d'être condamné par la justice britannique à 1 an de prison, là, aujourd'hui, en fin de matinée, Affaires Sensibles vous propose de revenir sur les révélations de Wikileaks. En 2010, ce site internet et son fondateur, Assange, donc, dévoilent des documents de l'état-major américain classés confidentiels et le monde entier découvre la révolution que tous pressentaient depuis plusieurs années, le numérique et ses possibles, cette nouvelle donne qui recompose aussi le paysage médiatique, politique et donc diplomatique. S'intéresser à cet épisode récent, c'est aussi entrer de plein pied dans une guerre d'un nouveau genre, où les missiles sont remplacés par des lignes de code, les soldats par des pirates anonymes cachés derrière leur écran d'ordinateur, le champ de bataille par cet espace infini qu'est Internet. Un véritable thriller 2.0 où CIA, fausse identité, secret des forces et guerres, la vraie celle-là, s'entremêle. Pourquoi peut-on dire, dans la foulée, que Wikileaks a fait entrer le journalisme dans le 21e siècle? Et quel est l'avenir des médias traditionnels dans cette révolution? Question qui s'adresse avec beaucoup d'acuité à beaucoup de journaux aujourd'hui. Et c'est précisément un journaliste qui a travaillé au Monde jusqu'à récemment et qui a rencontré Julian Assange que nous recevons aujourd'hui, Yves Eudes. Vous entendrez également le reportage de Gaylor Van Wimersch. Notre reporter avait rencontré les deux principaux lanceurs d'alerte français en 2015 qui ont révélé l'ampleur de l'évasion fiscale dans les banques suisses. Et je le rappelle, car la situation d'Assange a beaucoup évolué depuis, le récit que vous allez entendre remonte à 2015. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Vizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Reykjavik, 30 mars 2010. Un petit groupe de personnes marche dans les rues de la capitale islandaise. Emmitouflées dans leur parka pour combattre les vents de l'île du Nord, elles finissent par s'arrêter devant une petite maison blanche. Elles l'ont louée pour une semaine. Le leader du groupe s'avance à la rencontre du propriétaire des lieux. Il est un peu plus grand que les autres, longiligne, les yeux gris, le visage légèrement émacié. Il s'appelle Julian Assange. Lui et sa troupe sont journalistes. Et ils sont là pour couvrir le réveil du volcan Eyjafjallajökull survenu quelques jours plus tôt. Du moins, c'est la version officielle donnée aux autorités et aux propriétaires des lieux. Car en réalité, une fois les clés récupérées, c'est une toute autre opération qui se met en place. Les volets sont tirés, les bureaux déplacés, les ordinateurs installés. On tire des câbles à travers les pièces, on colle des post-it au mur, on rebaptise rapidement la maison, le bunker. Cette fine équipe, c'est celle de Wikileaks. Elle est tout entière dédiée à son prochain objectif, mystérieusement intitulé le projet B, nom de code donné à un document militaire, une vidéo tournée en 2007 pendant la guerre en Irak. Elle a immédiatement été classée confidentielle. Voilà 3 mois que Julian Assange a reçu le document déposé anonymement sur son site Wikileaks. Et voilà 3 mois qu'il travaille nuit et jour. Il a décidé de diffuser ce film à Reykjavik. Lui et son équipe ont tout juste une semaine pour se préparer. Après 6 jours de travail acharné, le projet B est prêt à sortir. Le 5 avril 2010, Julian Assange se rend à Washington où il doit tenir une conférence devant un groupe de journalistes du National Press Club. Il a troqué son vieux t-shirt et son blouson en cuir pour un costume cintré et une cravate. Il se tient face à l'audience, avec à sa gauche une toile de projection qui annonce une vidéo au titre énigmatique « Collateral Murder ». Julian Assange lance la lecture. Le film commence par une citation de George Orwell. « Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. » Et ce qui suit est terrible. L'image, saccadée en noir et blanc, est typique de ces vidéos militaires captées sur le terrain. La séquence est tournée depuis un hélicoptère Apache à bord duquel les soldats américains tirent sur une douzaine de civils irakiens. Parmi eux, il y a un reporter de l'agence Reuters et son chauffeur. Il se trouve que les soldats ont confondu l'objectif du journaliste avec une arme. La suite de la vidéo montre une voiture qui s'arrête au niveau des victimes. Son conducteur vient porter secours au blessé. Lui aussi est abattu. Ses deux enfants restés dans le véhicule sont grièvement blessés. Toute l'horreur de la Seconde Guerre du Golfe et des errements de l'armée américaine en Irak sont là, résumés en une séquence vidéo de 18 minutes, brute, frontale, qui glace le sang. Dans la salle de conférence, le silence de l'audience est inversement proportionnel au retentissement de la diffusion simultanée sur YouTube de Collateral Murder. Julian Assange a réussi son coup. Il a choisi le 5 avril pendant le week-end de Pâques où l'actualité est souvent creuse. Et forcément, la vidéo fait le tour du monde et le visage d'Assange s'affiche en une de tous les journaux.
Je crois que si ces meurtres sont conformes aux règles d'engagement, alors ces règles d'engagement sont mauvaises, profondément mauvaises.
Acculé, l'état-major américain réagit. Selon lui, regarder cette vidéo, c'est considérer la guerre à travers un trou de souris. Les experts, les éditorialistes, les commentateurs rejoignent la ligne des autorités américaines et condamnent la manipulation du montage et la mise en scène de la publication. Julian Assange s'agace, mais l'objectif est atteint. Le monde entier a entendu parler de WikiLeaks, passé de simple site internet à ennemi public numéro 1 en quelques heures. Bien, mais qu'est-ce que WikiLeaks ? Et qui est Julian Assange ? Quand il surgit au cœur de l'actualité, on sait peu de choses de lui. Né en 1971 à Townsville, une petite ville de Queensland, dans le nord-est de l'Australie, il passe sa jeunesse sur la route. Lui, sa mère et son demi-frère fuient un beau-père violent. Julian Assange acquiert vers 13 ans son premier ordinateur, un Commodore 64. 3 ans plus tard, il s'achète un modem et transforme sa machine pour l'ouvrir sur les réseaux informatiques et les systèmes de télécom. C'est le point de départ d'un autre nomadisme pour le jeune Assange, numérique, celui-là. L'adolescent est un programmateur exceptionnel, capable d'entrer dans des réseaux ultra sécurisés. Avec 2 autres hackers, il fonde un groupe International Subversives. Dans le livre Underground, publié en 1997, il explique la règle d'or du hacking. N'endommagez pas les systèmes que vous pénétrez, ne modifiez pas les informations qui y sont inscrites, partagez-les toutes. Le hacking, une pénétration réussie mais douloureuse en quelque sorte, car vient très vite le temps des premiers ennuis judiciaires. Maddox, le surnom de hacker choisi par Assange, se fait repérer en 1991 lorsqu'il s'introduit dans le système de Nortel, la compagnie des télécommunications canadienne. 36 chefs d'accusation s'abattent sur le jeune pirate informatique. Finalement, il n'est condamné qu'à verser des dommages et intérêts à l'État canadien. Après une dépression, il voyage au Vietnam, enchaîne les petits boulots et finit par reprendre des études de physique à l'université de Melbourne. C'est aussi durant cette période que Julian Assange construit son discours critique. Après avoir lu et étudié Kafka et Solzhenitsyn, il se rend compte que la véritable injustice, le vrai combat à mener, est celui de l'individu face à l'institution. Il dénonce alors la culture du secret, l'opacité des gouvernements. La vérité contre le mensonge d'État, l'idée de WikiLeaks est née. Au cours d'une conférence, en 2010, il explique le fonctionnement du site.
Julian, bienvenue. On a dit que WikiLeaks, votre bébé, a ces dernières années révélé publiquement plus de documents classifiés que la totalité des autres médias dans le monde. Est-il possible que ce soit vrai ?
Oui, est-ce possible ? C'est un souci, n'est-ce pas ? Que la totalité des médias dans le monde fasse si mal son boulot qu'un petit groupe d'activistes soit capable de révéler plus de ce genre d'informations que le reste de la presse mondiale combinée.
Comment cela est-il possible ? Comment les gens publient-ils ces documents et comment leur assurez-vous la confidentialité ?
Bien, il s'agit, autant qu'on puisse savoir, essentiellement de classiques lanceurs d'alerte. Et nous leur offrons de nombreux moyens de nous faire parvenir l'information. Alors nous utilisons des techniques de pointe en matière de cryptographie. Nous recevons des documents par courrier, le courrier postal classique, crypté ou non. Nous l'examinons minutieusement comme un organisme d'information classique et nous la formatons, ce qui est parfois assez difficile. Quand on prend l'exemple de gigantesques bases de données d'information, nous la révélons publiquement et puis nous nous défendons contre les inévitables attaques légales ou politiques.
C'est 4 ans auparavant, le 4 octobre 2006, que le site wikileaks.org est lancé. Après avoir posé les bases du projet à Melbourne, Julian Assange rencontre en juillet 2007 Daniel Dunstadberg, son futur porte-parole et numéro 2 du Chaos Computer Club, célèbre réunion de hackers à Berlin. Le principe de Wikileaks, que l'on peut traduire par « fuite collective », est simple. Le site fonctionne comme une boîte aux lettres. C'est le principe wiki, comme Wikipédia, interactif est là. Tout un chacun peut y déposer des documents confidentiels, sans être repéré. Le site garantit l'anonymat et la sécurité de la source. Par ce principe, Julian Assange fait appel aux whistleblowers, ces siffleurs ou lanceurs d'alerte qui font fuiter des documents confidentiels. Et ça marche. Dès son lancement, le site reçoit et rend public de nombreux fichiers sensibles. En novembre 2007, les plans et les procédures de sécurité à Guantanamo. En décembre de la même année, un rapport secret sur les détournements de fonds au Kenya qui entraîne la défaite du favori au présidentiel. En 2009, ce sont les relevés bancaires de 1600 clients aux îles Caïmans qui débarquent sur Wikileaks. Évidemment, le site est attaqué en justice par de nombreuses institutions, mais il reste imprenable. Wikileaks n'a pas de siège social. Du site, on ne connaît qu'un lieu physique, c'est un bunker situé à Stockholm, dans le quartier de Söderhamn. Les serveurs sont installés dans cet ancien abri atomique. Pour le reste, tout se passe à distance. Les réunions entre Julian Assange, Daniel Dunstadberg et les bénévoles se font sur la toile, via des réseaux secrets ou des logiciels protégés. Son fondateur non plus n'a pas d'adresse. Un sac pour 2-3 vêtements, un autre pour son ordinateur. Julian Assange vit dans les aéroports, comme il le dit lui-même. Alors, comment est financé le site? Eh bien, grâce aux dons. Par exemple, après la diffusion de la vidéo Collateral Murder, Wikileaks reçoit 200 000 dollars de donations. Les collaborateurs du site ne se retrouvent physiquement que dans les phases de préparation des grosses publications, comme pour la vidéo sur la guerre en Irak. D'ailleurs, ces images n'étaient qu'un avant-goût. L'équipe, en effet, se retrouve quelques mois plus tard à Stockholm. En juillet 2010, Wikileaks et Julian Assange lancent leur deuxième attaque.
En une et en gros caractères. Pour le Guardian, c'est l'événement. Il faut dire que la révélation de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan est massive. La plus grosse fuite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. Révélation sur les victimes civiles, les liens supposés entre talibans et services secrets pakistanais. Les documents jettent une lumière crue sur la guerre en Afghanistan.
Le 25 juillet 2010, trois mois après la diffusion de la vidéo sur la bavure en Irak, Assange décide de changer de stratégie. Alors qu'il s'est toujours montré méfiant vis-à-vis des organes de presse traditionnels, cette fois il travaille avec eux. En l'occurrence, trois journaux, le New York Times aux États-Unis, le Guardian en Angleterre et Der Spiegel en Allemagne. Ce changement de stratégie s'explique par plusieurs raisons. La première est liée à la nature même des documents, somme gigantesque de notes militaires, plus de 300 millions de mots en format informatique complexe. Wikileaks n'a pas les moyens humains et techniques de traiter l'ensemble. Deuxième raison, Julian Assange se rend compte que de passer par ces journaux réputés pour leur sérieux donnera forcément un écho encore plus fort à ses révélations, ainsi que la garantie de se protéger vis-à-vis des autorités et d'asseoir la légitimité des révélations. Du côté des quotidiens, c'est un véritable choc des cultures qui s'opère. Une entrée de plein fouet dans ce que Julian Assange appelle le journalisme scientifique. Les rédacteurs en chef, les journalistes, se retrouvent confrontés au data journalisme. Des montagnes de données brutes à trier, étudier, sélectionner. Surtout, il faut à présent travailler avec un intermédiaire supplémentaire d'un nouveau genre. Wikileaks et Julian Assange. Un filtre entre le journaliste et la source qui reste anonyme et inconnue. Julian Assange, lui, continue de commenter les révélations lors de conférences de presse, au cours desquelles il accuse frontalement l'administration américaine.
C'est à une cour de décider clairement si, en fin de compte, c'est un crime. Mais de prime abord, il apparaît qu'il y a des crimes de guerre dans les documents.
En réalité, les révélations apportées par les documents ne sont pas toujours sensationnelles, non. La véritable révolution opérée par Wikileaks repose sur le timing. Les infos obtenues par le site et la publication commune des trois journaux bouleversent l'agenda diplomatique et politique américain. WikiLeaks et Julian Assange mettent en œuvre leurs deux principes cardinaux, maximiser l'impact et obliger les gouvernements à être transparents. Pour l'impact, c'est une réussite. Plus de 4 millions de visiteurs se connectent sur le site du Guardian le jour des publications. Pour l'exigence de transparence, les autorités américaines apportent leur réponse prévisible. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jeff Morrell, menace Julian Assange.
Nous voulons qu'ils nous rendent tout et nous voulons que toutes les copies soient effacées, supprimées, envolées.
Les États-Unis se doivent de répliquer, de reprendre la main face à cette série de révélations. Alors on commence par dénoncer la dangerosité des secrets publiés, le risque pour certains alliés afghans, pour les soldats américains sur place. On menace les troubles faits. Et ce n'est pas au site Internet que les Américains vont s'attaquer, mais à son leader, Julian Assange. Autour de l'ancien hacker, devenu le visage de l'organisation, l'étau se resserre. Enfin, une question est sur toutes les lèvres. Qui est donc le mystérieux informateur qui a donné tous ces documents à WikiLeaks? Qui peut être à l'origine de cette fuite historique? Juillet 2010, l'Empire contre-attaque.
Il est soupçonné d'être à l'origine des révélations du site WikiLeaks qui embarrasse tant Washington. Un soldat américain a été transféré du Koweït à une prison de Virginie. Il avait été inculpé au début du mois pour violation du règlement militaire. C'est lui, en effet, qui aurait livré des milliers de documents classifiés sur la guerre en Afghanistan.
« L'homme s'appelle Bradley Manning. Il serait le lanceur d'alerte des récentes révélations du site. Le public découvre alors le visage enfantin de ce jeune militaire de 25 ans. Rendez-vous compte, c'est un petit gabarit d'1m58 pour 46 kilos qui fait trembler la première puissance mondiale. Bradley Manning tranche avec l'image du parfait soldat américain, homosexuel militant. Ce petit génie de l'informatique s'est engagé quelques années auparavant. Envoyé en Irak, il a développé sur le terrain une révolte contre la tournure qu'ont pris les événements. Scandalisé par les pertes civiles et les errements stratégiques de son pays, il décide alors de copier sur des CD de Lady Gaga tous les documents qu'il voit passer chaque jour sur son ordinateur. Esselé et malheureux, Bradley Manning commence à chatter avec un inconnu. Le jeune soldat ne le sait pas, mais son interlocuteur, qui s'appelle Adrian Lameau, est un ancien hacker arrêté par le FBI et condamné quelques années auparavant. Lors de leurs échanges, Adrian Lameau gagne la confiance de Bradley Manning. Ce dernier finit par lui révéler qu'il a envoyé l'ensemble des documents copiés et volés à WikiLeaks. Oui, c'est lui. Le hacker décide alors de dénoncer Bradley Manning aux autorités américaines. Chez WikiLeaks, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le site repose justement sur la garantie de l'anonymat des sources. Et voilà que l'homme à l'origine des plus grandes révélations du site vient d'être arrêté. En aucun cas, Julian Assange et les autres membres de WikiLeaks ne peuvent confirmer que l'homme est bien à l'origine des fuites. Ce serait contrevenir à tous leurs engagements. Mais un mois plus tard, une autre information tombe.
La justice suédoise, pourtant connue pour sa discrétion et son efficacité, semble être allée un peu trop vite en besogne concernant les accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre du fondateur du site internet spécialisé dans le renseignement WikiLeaks, l'Australien Julian Assange. Le mandat d'arrêt émis vendredi soir et bizarrement communiqué à la presse a été purement annulé samedi après-midi, le parquet estimant que les soupçons de viol étaient totalement infondés. De nombreuses questions restent en suspens et notamment celle de la fuite aux médias, de l'avis de recherche et de l'inculpation lancée contre Julian Assange, intox ou coup fourré, la publication à venir de 15 000 documents classifiés de l'armée américaine sur le conflit en Afghanistan n'est évidemment pas du goût de tout le monde. Stockholm, Jean-Paul Pourron pour France Inter.
Effectivement, curieuse attitude de la justice suédoise pour une troublante affaire. Le 11 août 2010, Julian Assange se rend en Suède pour participer à un séminaire. Au cours de ce séjour, il rencontre deux jeunes femmes. Il passe une nuit avec Anna Ardin, puis une autre avec une admiratrice. Dans les jours qui suivent ces relations, les deux femmes se retrouvent pour aller porter plainte ensemble alors qu'elles ne se connaissent pas. Selon elles, Julian Assange aurait refusé de porter un préservatif au cours de leur rapport sexuel. Surtout, il n'aura pas voulu se soumettre à un test VIH par la suite. En Suède, la législation prévoit une classification particulière pour ce type de plainte. Ainsi, Julian Assange est accusé de sexe par surprise. L'homme a depuis regagné l'Angleterre. Il refuse de se rendre en Suède pour s'expliquer dans cette affaire. Un piège, ces deux jeunes femmes ? Coup sur coup, le lanceur d'alerte, Bradley Manning, et le leader du site WikiLeaks, Julian Assange, sont rattrapés par la justice. Dans les deux cas, les protagonistes ont baissé leur garde alors que les autorités étaient à l'affût. Ces événements ont une répercussion directe sur WikiLeaks. Les dissensions naissent au sein de l'équipe. Le numéro 2, Daniel Domscheidberg, bras droit de Julian Assange depuis de nombreuses années, vit particulièrement mal l'arrestation de Bradley Manning. Quelque chose s'est brisé. Et puis, l'affaire demeure. En Suède, affaiblit Julian Assange au sein de l'organisation. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la visibilité, le rôle accru de leur leader, son caractère dictatorial, ses problèmes avec la justice. Selon eux, ils mettent en péril le travail et l'image de WikiLeaks. Finalement, en septembre, Daniel Domscheidberg et d'autres membres importants de WikiLeaks décident de quitter le navire. Pour Assange, comme pour beaucoup d'autres, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, WikiLeaks continue ses révélations. Le 23 octobre 2010, toujours en collaboration avec les trois journaux, rejoints par le journal français Le Monde, des centaines de milliers de documents sont publiés sur la guerre en Irak. Il s'agit des rapports d'incidents rédigés par les officiers sur le terrain. Leur lecture fait froid dans le dos. C'est l'Irak de l'intérieur que l'on découvre. La pratique de la torture par la police irakienne, la violence des soldats américains lors des arrestations, les bavures des forces de sécurité privées. À intervalles réguliers, au compte-gouttes, le site livre ses révélations. Pour le Pentagone, la panique s'installe quant aux possibles publications à venir. D'autant plus que le prochain coup de WikiLeaks, s'ils ne l'ont pas vu venir, Eh bien, il le voit venir. Le 28 novembre 2010, Julian Assange envoie sa troisième banderille.
Voici les documents qui embarrassent au plus haut point les États-Unis. Ce sont des notes envoyées par des diplomates américains au département d'État à Washington. 250 000 documents au total qui jettent une lumière crue sur le double langage qui caractérise les relations internationales. On apprend ainsi que le roi Abdallah d'Arabie Saoudite aurait appelé fréquemment les Américains à attaquer Téhéran. Les alliés les plus proches de Washington ne sont pas non plus épargnés par les diplomates américains. Nicolas Sarkozy est ainsi décrit comme susceptible et autoritaire. Silvio Berlusconi, considéré comme irresponsable et imbu de lui-même. Quant à la chancelière Angela Merkel, elle a peur du risque et fait rarement preuve d'imagination. Personne n'a encore été mis officiellement en cause dans cette affaire, mais les autorités américaines suspectent un jeune soldat de 23 ans, Bradley Manning, ancien analyste de données dans l'armée américaine. C'est lui qui aurait transmis tous les documents à WikiLeaks. Il est aujourd'hui en détention aux États-Unis.
Un 11 septembre diplomatique. C'est ainsi que Franco Frattini, le ministre des Affaires étrangères italien, qualifie la publication du 28 novembre 2010. Que les coulisses et les secrets de la diplomatie américaine soient mis sur la place publique, effectivement, c'est une première. Et pour les États-Unis, c'est le coup de trop. Alors, on met la pression sur les entreprises qui travaillent avec le site. Dans la foulée de cette parution, WikiLeaks est lâché par ses partenaires. Amazon, qui héberge une partie de ses contenus, abandonne le site. Les groupes bancaires Visa et Mastercard suspendent leur paiement à WikiLeaks. Le site subit une série d'attaques massives. Il est bloqué à plusieurs reprises. Mais des milliers de sites miroirs copient l'intégralité des contenus de WikiLeaks et les rendent à nouveau accessibles. OVH, l'entreprise française, prend le relais d'Amazon et met ses serveurs à disposition pour WikiLeaks. Des hackers, notamment le groupe Anonymous, répliquent et s'attaquent aux multinationales qui ont abandonné WikiLeaks. Les sites d'Amazon, de Visa, de Mastercard se retrouvent bloqués. Le nom de l'opération, Payback, autrement dit, opération Vengeance. La popularité de WikiLeaks et de Julian Assange n'a jamais été aussi haute. Sur sa page Facebook, le site passe de 200 000 à 7 millions de fans, et en moins d'une semaine. De son côté, Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, se doit de réagir. Elle tient donc une conférence de presse où elle dénonce les agissements de Julian Assange, à ses yeux, le nouveau cyberterroriste.
Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté cette divulgation d'informations classifiées. It puts people's lives in danger, threatens our national security. Cela met la vie de certaines personnes en danger, menace notre sécurité nationale et mine nos efforts pour travailler avec d'autres pays pour résoudre des problèmes que nous partageons.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests.
Donc que ce soit clair, cette divulgation n'est pas juste une attaque sur les intérêts de la politique étrangère américaine. C'est une attaque sur la communauté internationale. Je suis consciente que certains ont pu, par erreur, télécharger ces documents.
There is nothing laudable about endangering innocent people.
Donc j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Il n'y a rien de glorieux à mettre en danger des personnes innocentes. Il n'y a rien de courageux à saboter les relations pacifiques entre les pays sur lesquels repose notre sécurité nationale.
Les menaces contre Julian Assange deviennent rapidement très concrètes. Le 30 novembre, la plainte contre lui en Suède est modifiée pour qu'un mandat d'arrêt international puisse être lancé. Interpol établit une notice rouge sur le cas Assange. 180 pays ont désormais l'obligation de l'arrêter et de l'extrader vers la Suède. Julian Assange est au pied du mur. Il ne peut plus fuir. Alors, le 7 décembre 2010, il décide de se rendre à Scotland Yard. À l'issue de l'audience, le juge refuse sa demande de liberté conditionnelle et ordonne son maintien en détention. L'étau se referme. Il est finalement libéré le 14 décembre et assigné à résidence. Pendant ce temps, dans le monde entier, le cas de WikiLeaks et de Julian Assange divise. Avec ce qu'on appelle très vite le Cable Gate, la situation est différente. C'est le secret d'État, la diplomatie de l'ombre qui est divulguée au grand jour. De nombreux observateurs et spécialistes dénoncent ce type de pratique au nom du nécessaire secret des relations internationales. C'est notamment le cas d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères françaises.
Là, on a affaire, si je comprends bien, à une personne qui veut se venger, qui est en même temps un hacker relativement doué. un système informatique qui n'est pas correctement protégé et qui est trop interconnecté avec des tas de systèmes. Wikileaks qui veut un peu se refaire une vertu, alors qu'il est le théoricien de la transparence absolue, ce qui est un concept totalitaire en réalité.
Mais ce qui n'est pas le cas.
Parce qu'on a déjà pratiqué la transparence absolue. C'était dans les villages chinois, l'époque de Mao, sous la révolution culturelle. Donc si on aime la transparence absolue, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Wikileaks a peur, ou se masque un peu, donc passe par des journaux sérieux, qui auraient dû dire, nous on publie pas le résultat d'un vol, en réalité. On peut rêver de journaux qui auraient eu la force de dire ça. Non, je vois bien qu'ils ne pouvaient pas ne pas le faire, mais je pense que ça aurait plus d'allure et que ça aurait donné un coup d'arrêt à une définition de la transparence qui est en fait une forme de totalitarisme masqué.
En face, ils sont nombreux à apporter leur soutien au site, et plus particulièrement à Julian Assange. Surtout, il reçoit le soutien de l'Équateur. Je dis surtout car l'Équateur lui accorde le droit d'asile. Oui, le leader de Wikileaks peut donc se réfugier à l'ambassade équatorienne à Londres. La tension diplomatique, vous l'imaginez, entre Quito et Washington est alors à son comble. Cette protection permet à Assange de se prémunir d'une extradition en Suède. Il craint que le gouvernement suédois ne l'envoie ensuite aux États-Unis où il risquerait de passer sa vie en prison. Les personnalités se succèdent à l'ambassade équatorienne aux côtés d'Assange. On croise le cinéaste Ken Loach, la chanteuse Lady Gaga ou encore Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie. Des manifestations sont organisées devant la petite maison de briques rouges dans laquelle vit cloîtré l'ancien hacker devenu symbole de la liberté d'informer. Le 19 août 2012, deux mois après s'y être réfugié, Julian Assange se présente au balcon de l'ambassade.
The Pentagon reissued.
Le Pentagone a réitéré ses menaces contre moi en septembre et a affirmé que l'existence même de Wikileaks, c'était un crime commis en plein jour. La vraie démocratie est la résistance des peuples, armés de la seule vérité, de la place Tahrir jusqu'à ici, à Londres. Les gens me demandent souvent, que puis-je faire ?
The answer is not so difficult.
La réponse n'est pas si compliquée.
Learn how the world works.
Apprenez comment fonctionne le monde.
And intentions of those who seek to control us.
Remettez en question les déclarations et les intentions de ceux et celles qui cherchent à nous contrôler derrière une façade de démocratie ou de monarchie.
Unite in common purpose and common principle.
Unissez-vous pour un but commun et un principe commun.
Il voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, WikiLeaks, c'est notre invité Yves Eudes. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste au Monde pendant 31 ans et pendant 15 ans grand reporter. Vous êtes un spécialiste des États-Unis et des nouvelles technologies. Vous avez été aussi producteur et réalisateur de documentaires pour la télé. Et vous avez travaillé avec WikiLeaks et vous avez rencontré Julian Assange. Je rappelle, pour que les auditeurs aient le repère, que Julian Assange a été arrêté par la police britannique il y a 3 semaines.
Le 11 avril.
11 avril. Et qu'il a été condamné ce matin à un an, presque un an de prison. 50 semaines pour ne pas avoir respecté les conditions de sa liberté conditionnelle, justement. Et il est maintenant sous la menace, évidemment, d'une extradition vers les États-Unis pour piratage informatique. Alors, l'intitulé paraît comme ça, pas très grave, mais évidemment, il risque gros. Qu'est-ce qu'il risque ?
Alors déjà, c'est vrai qu'on est en pleine actualité, parce qu'il y a deux procédures parallèles. Il y a ce matin, il a été condamné donc à 50 semaines, ce qui est pratiquement la peine maximale. Et il faut savoir, c'est assez rare que la justice britannique donne la peine maximale pour ce genre de délit. Donc on voit bien qu'il a un traitement spécial.
Ouais.
On dit c'est injusticiable comme les autres. En fait, on a l'impression que depuis le début, la justice britannique est extrêmement sévère à son égard. Et alors demain,
ouais,
il y a une autre procédure qui est déclenchée. C'est la justice britannique commence à examiner la demande d'extradition déposée par les États-Unis, qui veulent le récupérer. Donc ça va certainement être une longue procédure, mais grâce, si j'ose dire, à la condamnation de ce matin, on sait qu'il va rester en prison pendant un certain nombre de mois,
peut-être un an,
on ne sait pas, et que donc il sera entièrement à la disposition de la police et de la justice britannique si on décide de l'extrader. Donc là, pour lui, chaque jour, la situation empire. Et demain, je pense que ça va être juste une première audience. Je crois que c'est des audiences qui... Le prévenu n'est même pas là. Mmh. C'est-à-dire que c'est des audiences qui se font par visioconférence entre la prison et le tribunal. C'est un système complètement déshumanisé, on ne peut pas vraiment se défendre. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ses partisans, les militants et surtout ses avocats vont faire en sorte que la procédure d'extradition soit la plus longue possible. Donc, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses empirent de jour en jour.
Alors, Le Monde a été l'un des premiers journaux à collaborer avec WikiLeaks. Vous, votre regard sur cette nouvelle façon de donner de l'information et de la récupérer, quel était-il dès le début? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il y a évidemment qu'il y avait beaucoup de journalistes méfiants, d'autres qui l'étaient moins, qui ont vu l'utilité de la chose.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Julian Assange dès 2010.
Oui.
Il faut savoir qu'à l'époque, 2009-2010, j'étais beaucoup en Californie pour couvrir différentes choses, Silicon Valley, mais aussi les hackers de San Francisco et tout ça. Et ce sont ces hackers qui, dès 2009, ont commencé à me parler de Julian Assange. On me dit, il faut absolument que tu rencontres ce type, un Australien, là, il est incroyable. Bon, et les choses ont traîné un peu. Moi, je suivais ce que faisait Assange, mais de loin, comme ça. Et c'est seulement en avril 2010, juste après qu'il ait diffusé cette fameuse vidéo, la Collateral Murder sur
l'Irak.
C'était à Berkeley. Et à l'époque, c'était l'âge d'or de WikiLeaks. Quand j'ai rencontré, on s'était donné à vous dans un bistrot, un bar à café. À Berkeley, il faisait beau, il avait 38 ans, il était en pleine forme, c'était un homme à l'époque, enfin, l'impression qu'il donnait, c'était d'être assez joyeux, insouciant, très optimiste, déjà un peu arrogant, mais une arrogance un peu naïve, l'impression qu'il allait changer le monde, en fait, en douceur, grâce à Internet.
C'est ça, de sa mission, il avait une très haute idée, missionnaire au niveau de la planète, en fait, c'est ça. Voilà.
Là, à l'époque, il était invité par l'université de Berkeley, comme une espèce de star universitaire, Il y a un groupe de professeurs de Berkeley s'apprêtait à lui décerner un prix honorifique universitaire pour la qualité de son travail journalistique. Là, il était au firmament ça n'a pas duré. Donc, et comme ça, c'est là que je l'ai rencontré. On a parlé de choses et d'autres pendant... On a eu Au départ, c'était une conversation qui devait durer 30 minutes. Finalement, il m'a tenu jusqu'à, je sais pas, 1h du matin. Il continue à me parler de tout dans le parking, alors que moi, j'essayais de rentrer pour me coucher. Et c'est là, juste à la fin, qu'il m'a dit, ah, mais il y a aussi... Il a complètement changé de registre. Il a dit, on a aussi, j'ai aussi un gros, une grosse masse de documents explosifs. Il a donné aucun détail. Il m'a dit, mais pour ça, j'ai besoin des grands médias, des médias classiques. Et je t'en reparlerai.
Parce que quel était son regard sur l'information, puisqu'il est passé par cette méthode qui consiste à collecter des informations venues de l'intérieur et des différents intérieurs dont on s'occupe. Quel regard il avait sur la presse? Il se disait la presse n'est pas suffisante. Nous, on a plus d'infos, mais on a besoin de la presse comme un filtre quand même. C'était ça?
Alors au tout début, si j'ai bien compris, l'idée pour les gens comme Julien Assange et toute la génération de des hackers des années 90, lui, toute sa pensée et sa pratique se sont forgées comme dans la première génération des vrais militants libertaires de l'internet et des hackers. Lui, il pensait que il allait remplacer les vieux médias au début, parce que grâce à la puissance de l'internet, la capacité d'un homme seul comme lui ou un tout petit groupe de créer un site internet qui serait accessible directement du monde entier.
Avec toutes aussi, les infos qu'on n'avait pas avant, voilà.
Et aussi la capacité maintenant des lanceurs d'alerte de s'adresser directement aux diffuseurs. Un des plus grandes transformations qu'Internet a apporté, ou l'informatique en général, c'est qu'avant, du temps, je sais pas, des Pentagon Papers, par exemple, pour voler des documents, les lanceurs d'alerte avait des problèmes logistiques monstrueux, fallait je sais pas faire des photocopies ou
avoir
des
pas
valises de documents, c'était sûr. Impossible. Mmh. Avec l'informatique maintenant, une disquette ou une clé USB, on peut télécharger d'un seul coup des millions et des millions de pages de documents confidentiels et les mettre sur Internet. Donc c'est cette révolution technique complète qui a un peu changé les rapports de force entre, si on peut dire, les lanceurs d'alerte et puis les administrations et les entreprises. Et Julien Assange, lui, s'est engouffré dans cette nouvelle brèche avec une ambition extrême. C'est-à-dire, voilà, on invente une nouvelle forme de journalisme, le journalisme direct.
Ouais.
Et sa première idée, c'était de publier le maximum de documents sans les éditer, même s'il y avait des dommages collatéraux. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il s'est aperçu que c'était pas... ça suffisait pas, ou que la situation n'était pas mûre, si on peut dire.
Alors vous, il faut être deux pour ça, pour que ce soit un mur et pour une collaboration. Vous, au Monde, racontez-moi comment, à partir de ça, vous avez décidé de travailler avec Wikileaks et Assange, et pourquoi et comment?
Ben moi, quand je suis revenu de cette première entrevue à Berkeley, j'en ai parlé à mes chefs, qui ont dit, ah ouais, mais continue, suis-le, voilà, etc. Bon, ça a été un peu long et compliqué parce que je faisais d'autres choses par ailleurs. Mais je l'ai revu, donc, à l'automne 2010, à Londres, cette fois-ci. Après, moi, j'étais passé aussi par Reykjavik, Berlin, etc. Mais là, la vraie entrevue, ça a eu lieu à Londres. Et là, donc, on a mis en place un système très complexe, où il y avait 5 grands journaux, donc Le Guardian, Der Spiegel, New York Times, Le Monde et El País, et qui devaient travailler en partenariat, en collaboration complète, tout partagé.
Un consortium, quoi, voilà, de journalistes.
Quelque chose de très, qui au départ devait être complètement open, transparent, etc. Et avec ce sixième personnage, Wikileaks, qui se présentait comme un partenaire, mais en fait, très vite, Julien Assange, c'est un homme, comme vous l'avez dit, qui est investi d'une mission, qui est un peu mégalo. On peut pas être... pour se lancer dans des aventures aussi énormes, il faut être un peu mégalo. Et donc, il a cru à un moment qu'il allait pouvoir être le chef de ce consortium.
Ouais. Voilà.
Diriger un peu tout le monde, ouais, donner des ordres au New York Times et au Monde, etc. Et du coup, les relations sont devenues un peu compliquées. Mais alors, curieusement, il s'est passé quelque chose qui était totalement imprévu, c'est qu'à cause de la procédure suédoise où il était
accusé de viol,
accusé
d'agression,
d'abus sexuel, très compliqué. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'enquête. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit officiellement. Il n'a jamais été inculpé. Donc on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que en plein milieu de la divulgation du câble Gate, là, des documents diplomatiques. Il a disparu parce qu'il a été mis en prison.
Ouais.
Et donc, on a continué sans lui, de facto.
Ben oui, bien sûr.
Et ça donc, montré... ça a simplifié un peu
oui, le... Oui, ça lui a montré qu'on pouvait aussi faire sans lui. Avec
oui,
lui
non,
d'abord,
mais,
avec
pas
lui d'abord
mais c'est vrai
mais
que c'est...
pas qu'avec lui. Quoi.
C'est vrai voilà. que c'est grâce à lui. C'est lui qui avait réuni tous les documents du lanceur d'alerte principal Bradley Manning, enfin Chelsea Manning aujourd'hui, et qui nous avait donné tout de façon très cash au début. Quoi. Il a tout donné. Il a pas essayé d'en garder des bouts pour lui, etc. Et on a quand même pu travailler avec lui par la suite. Après il y a eu Guantanamo et tout. Moi, je l'ai vu entre 2010 et 2013. Moi, j'ai dû le rencontrer 7 ou 8 fois, je pense, à chaque fois pour des vraies réunions de travail.
Alors, on va écouter un reportage ensemble, donc diffusé en septembre 2015, lors de la première diffusion de ce récit. Notre reporter Gaylor Van Wimersch avait rencontré les deux principaux lanceurs d'alerte français qui, en 2008, ont révélé l'ampleur de l'évasion fiscale dans les banques suisses. Il s'agit de deux anciens employés de ces banques, Hervé Falciani, ex-informaticien dans la filiale suisse de la banque HSBC, et Stéphanie Gibault, ex-employée de la banque suisse UBS.
Dites les lanceurs d'alerte.
On se trouve à la fête de l'humanité, au parc de la Courneuve, au nord de Paris. Et aujourd'hui, dimanche 13 septembre, se tient dans l'Agora de l'humanité un débat intitulé « Vive les lanceurs d'alerte ».
Mais je voudrais faire référence aussi à deux personnes.
Agora de l'humanité.
Lanceurs d'alerte, il y a un qui est réfugié à l'ambassade d'Équateur en Angleterre depuis 2 ou 3 ans.
Merci, monsieur, parce que justement, on a écrit à monsieur François Hollande, président de la République, pour demander de réétudier les cas de Julian Assange. Parce que
on est avec vous, Stéphanie Gibault. Vous êtes ex-salarié de la banque suisse UBS et vous êtes devenu, en 2008, ce qu'on appelle un lanceur. Et pour vous, une lanceuse d'alerte, je ne sais pas si on peut le dire au féminin.
Oui, c'est a priori ce qu'on dit, une lanceuse d'alerte. Moi, je dis surtout que je suis témoin d'un dysfonctionnement. Je suis aussi victime de ça, parce que le fait de l'avoir dénoncé, ça m'a coûté tout ce qui fait la vie d'un collaborateur, d'un cadre, c'est-à-dire privé d'emploi.
Vous ne travaillez plus.
Moi, je ne travaille plus depuis que j'étais licenciée de la banque.
Vous étiez à l'époque responsable du marketing chez UBS et vous avez révélé le système et le fonctionnement de l'évasion fiscale de cette banque.
Évasion fiscale et blanchiment d'argent en bande organisée, oui.
Et si je vous dis Julian Assange?
Ah. Alors, j'ai rencontré Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres vendredi de la semaine dernière. On a passé 3 heures ensemble. C'est the king, c'est the boss, Julian Assange.
The king.
Bon, enfin, c'est clair que lui, il a la situation la plus critique. Tout le monde, tous les lanceurs d'alerte ont des situations particulièrement critiques. Tout à l'heure, j'entendais parler de Edward Snowden, qui est nommé avec Antoine Deltour pour le prix Sakharov européen. Antoine qui risque quelques années de prison avec l'affaire LuxLeaks. Edward Snowden qui est en asile à Moscou. C'est des vies très difficiles qu'on a là. Moi, dans mon histoire, j'ai de la chance de ne pas être en Suisse. Si j'étais en Suisse, je serais en prison, par définition. Il serait peut-être temps de se poser les vraies questions. C'est-à-dire, au lieu de nous attaquer, nous, et les garçons, on les a assez attaqués sur leur personnalité ou autre chose, arrêtons, quoi. Vraiment, arrêtons qu'on se penche quand même sur les éléments, sur les informations qu'on a été capable de transmettre à la justice. Et que les coupables soient punis. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a aucun dirigeant de banque ne va en prison.
Alors, vous qui avez rencontré Julian Assange très récemment à l'ambassade d'Équateur à Londres, comment va-t-il ?
Alors, il n'a pas le droit de quitter l'ambassade. Il voit à peine la lumière du jour. C'est comme vivre à l'intérieur d'une prison, en plein cœur de Londres, à côté de chez Harrods. Vous avez 4 flics anglais qui sont là et qui se relayent 24 heures sur 24. Ça coûte une fortune aux contribuables britanniques. Moi, j'avais beau dire que je venais juste à l'ambassade d'Équateur. J'étais obligée, à un moment donné, de dire que j'avais rendez-vous avec M. Assange. Et forcément, il y a une note qui a été prise sur un petit cahier.
On enregistre votre nom.
Mais de toute façon, on sait que tout ce qu'on fait... Il y a des traces, on nous suit, en tout cas moi depuis que je suis dans mes procédures avec UBS depuis 2008, mon téléphone est hacké, mes mails sont lus, mes conversations sont écoutées, mes textos sont enregistrés. Voilà, si on nous fait ça, c'est bien qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui dérange vraiment.
Dernière question, vous Stéphanie Gibault, comment allez-vous?
Ça dépend des jours, je travaille beaucoup pour éviter de penser.
On leur dit vive les lanceurs d'alerte ou pas? Vive les lanceurs d'alerte!
Hervé Falciani, ancien employé d'HSBC Private Bank à Genève, aujourd'hui à la fête de l'UMA, pour justement parler de ce qui est connu sous le nom de l'affaire Swissleak.
Vous êtes un ancien banquier. Vous êtes ce qu'on appelle également un lanceur d'alerte. Ça, vous l'êtes devenu depuis 2009, car vous avez révélé une liste, un listing, de 130 000 personnes qui étaient des évadés fiscaux.
Il faut comprendre que l'encryption, les systèmes de Wikileaks protègent Assange, protègent les personnes qui lui transmettent les informations sensibles.
Parce que les informations sont codées.
Et de la même façon, l'information n'est utile que partagée, sinon c'est le secret. Prenons le cas simple, voilà, le secret bancaire peut permettre de cacher l'argent de politique derrière des trusts et des prête-noms. On connaît le cas Cahuzac. Dans ce cas-là, il faut révéler le secret. Et puis après, en contrepartie, il faut protéger nos libertés individuelles. Et donc il faut dénoncer ceux qui entravent le respect de nos libertés individuelles. Et c'est l'action d'un Assange.
Alors, il y a eu un article sur vous dans un grand quotidien national, Le Monde, qui vous dépeignait de manière assez négative comme un affabulateur avec une double personnalité.
Si cet article, ce que vous en retirez, c'est que vous aurez un doute sur moi, très bien. Ce qui prévaudra, à mon sens, toujours, c'est l'intérêt général.
Donc, peu importe de savoir si Hervé Falciani ou quelqu'un comme Assange sont des affabulateurs, ou même peu importe de savoir si Julian Assange est réellement un violeur, ce qui lui est reproché par la justice suédoise, pourvu que l'intérêt général soit défendu derrière.
Oui, on peut même envisager qu'il soit un violeur et qu'il rende un service à la communauté, et qu'il paye pour le fait d'être un violeur, et qu'il soit protégé pour ceux qui l'amènent à la communauté. La mafia tue deux fois. Ça, c'était un juge, Juge Falcone, qui disait ça. Une fois physiquement et une fois moralement, en discréditant la personne. Et la mafia, malheureusement, c'est ceux qui essayent de cacher justement les éléments qui établissent que l'intérêt commun pourrait être amélioré.
Et donc, pour les nommer, les États, le monde de la finance ?
Ça peut être aussi des journalistes.
Là, c'était en 2015, donc il a encore fait référence à les soupçons en Suède, mais ça, c'est réglé. La question qu'on doit se poser, nous, c'est vrai que le journalisme est à la croisée des chemins avec l'arrivée d'Internet. La vraie question qu'on doit se poser, je crois, c'est qu'est-ce que le public, hein, parce qu'on travaille pour le public, pas pour nous-mêmes, gagne avec cette nouvelle méthode, c'est-à-dire que du journalisme et des sources qui viennent de Wikileaks, notamment une collaboration.
Ben, la méthode, en principe, elle est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, comme je disais tout à l'heure, c'est que maintenant les lanceurs d'alerte peuvent subtiliser ou s'approprier des masses absolument gigantesques de documents. Et donc, ça permet aux journalistes en aval de travailler de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus efficace et exhaustive. On a vu, maintenant, c'est passé dans la pratique courante des journalistes, y compris ici à France Inter, il y a une cellule d'investigation.
Une cellule d'investigation qui travaille comme
les
ça.
Les gens
aussi,
qui travaillent maintenant, travaillent sur les Panama Papers, les SwissLeaks dont on a entendu parler, HollyLuxLeaks, ou que ce soit Assange. Voilà, c'est ça, c'est cette l'informatique d'un côté. Elle a toutes sortes d'implications en matière de surveillance de masse, etc. Mais par ailleurs, elle donne aussi un nouveau pouvoir aux citoyens ou aux militants et activistes comme Assange face aux États. Et c'est ça qui est important maintenant. Alors, on parle beaucoup de la personnalité de Julian Assange. Bon, c'est un être complexe, etc. Alors, est-ce que c'est un homme pur et parfait? Non, bien sûr que non. Mais c'est pas le propos.
C'est ce que disait le reporter tout à l'heure.
C'est l'intérêt général.
Voilà,
il a, comme vous et moi, il a ses défauts, ses problèmes. Il a fait des choix discutables. Il a eu des comportements des fois, répréhensibles. Mais le problème n'est plus là du tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que maintenant des États démocratiques comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne veulent, à travers Assange, attaquer Wikileaks, qui est malgré tout quand même un site d'information, qui travaille d'une façon qui n'est pas si éloignée de la façon dont travaillent les cellules d'investigation des grands médias. Et donc là, ça c'est extrêmement grave, parce que ça peut créer un précédent. Et on est tous menacés, tous les journalistes d'investigation sont menacés si les États-Unis parviennent à détruire Wikileaks. Ce système de répression est vieux comme le monde. D'abord, on s'attaque à des gens qui sont exceptionnels, hors normes, bizarres, et l'opinion publique dit « bon, ben ceux-là, ils l'ont bien cherché ». Mais derrière, on peut à nouveau ensuite s'attaquer à un public beaucoup plus large.
Donc c'est une valeur absolue pour le public, et c'est une valeur ajoutée au journalisme.
Mais bien entendu.
Merci infiniment, Yves, de vos éclairages. Merci, au revoir.
C'est moi, merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire WikiLeaks et les lanceurs d'alerte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour des commentaires et des informations complémentaires à notre émission. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.